Une autre vie s'invente ici.
Une autre vie s'invente ici.
L'équilibre énergétique en question.
Énergie renouvelable,
bâtiment,
transport,
sobriété énergétique,
économie circulaire.
On en parle dans cette émission coproduite par Radio Larzac, Radio Saint-Afrique et le Parc naturel régional des Grands Causses.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Saint-Afrique et Radio Larzac pour cette dernière émission de l'émission du Parc, l'équilibre énergétique en question. Et pour cette dernière émission, un sujet brûlant, un sujet qui remue, c'est l'éolien dans le parc. Et avec nous pour en discuter aujourd'hui, nous allons le plaisir de recevoir Florent Taris, directeur général des services du parc. Bonjour à vous.
Bonjour.
Richard Fiol, maire de la commune de Nantes et vice-président de la communauté de communes Larzac et Vallée, responsable des questions énergétiques et membre également du comité syndical du parc. Bonjour Richard Fiol.
Bonjour.
Et également Christian Font de la communauté de communes des Sept Vallons, président délégué du parc. Alors pour commencer peut-être avec vous Florent Taris, replacer un peu le cadre, ce qu'on fait à chaque émission. On est toujours dans cette transition énergétique pour la croissance verte, c'est comme ça que ça s'appelle, TEPCV. Est-ce que vous pouvez rappeler d'où ça vient tout ça ?
La genèse est longue. Premièrement, on s'aperçoit que le gigantisme productif qui génère des surinvestissements et une surcapitalisation pour produire, hein. Quand vous voyez les débats de l'EPR aujourd'hui, c'est parce qu'on ne sait plus où on va s'arrêter. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, à partir du moment où vous concentrez les lieux de production et vous diffusez les lieux de consommation, ça impacte de nombreux réseaux, de nombreux investissements. Et tout ce modèle-là est aujourd'hui en difficulté parce que, en gros, c'est un petit peu comme le cheval au galop, on n'arrive plus à le rattraper. Et de notre côté, où au moment où on a acté que, ben, on ne pouvait pas toujours être dans le plus, en termes d'énergie, qu'il fallait aussi générer de l'économie d'énergie. Ou même, j'ai envie de dire, la phrase qui est sortie de Rio, c'était la première énergie que l'on produit, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc le modèle du parc s'est inscrit dans cette logique-là.
Et c'est comme ça que donc, vous avez mis en place depuis 2009 un plan climat-énergie territorial, un plan qui a abouti à un objectif aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'équilibre énergétique à l'horizon 2030, un objectif qui se traduit maintenant dans un projet politique, le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Sur le territoire, pour rappel, donc, l'énergie qu'on produit et l'énergie qu'on dépense, c'est quoi ?
Le territoire aujourd'hui consomme 2200 gigawattheures par an et en produit grosso modo 700 à 800.
Et l'objectif, c'est d'atteindre...
C'est d'atteindre un équilibre à 1400.
1400.
Donc avec un double pas, faire des économies d'énergie, et deuxièmement, accroître la production d'énergie pour effectivement avoir un équilibre entre ce qui est produit par le territoire et ce qui est consommé par le territoire.
Dans cette démarche qu'on a longuement expliquée hein, au cours des précédentes émissions, il y a une part de question, c'est la production d'énergie renouvelable, dans laquelle se pose la question de l'éolien. D'autres questions étaient abordées, la création d'une SEM énergie-bois, la création des questions de méthanisation notamment. La question aujourd'hui, c'est la question éolienne. Ça représente quoi l'éolien dans la transition énergétique sur le territoire ?
La production affichée en objectif, c'est grosso modo 45-50% de l'énergie à venir.
L'éolien, ce sera la moitié.
En 2030.
De l'énergie à revenir en plus.
Une fois de plus, on est dans une réflexion de vulgarisation. Donc je vous donne les chiffres. On est à 45-50%, grosso modo, à terme. Alors qu'aujourd'hui, c'est 80, presque 90% et c'est de l'hydraulique.
Et l'éolien, qui est une question qui est débattue, qui, on va en parler en deuxième partie, fait aujourd'hui l'objet d'un projet avec quelques objectifs chiffrés. On peut peut-être les dire dès maintenant. Hein, c'est un nombre de mégawatts et un nombre approximatif de mâts sur l'ensemble du parc.
Mais pour atteindre les 45% grosso modo de production éolienne dans nos 1400 gigawatts, il faut installer à peu près 250 mégawatts installés, ce qui fait grosso modo autour de plus ou moins 15% ou 20%, 130 mâts. Ouais.
130, 140 mâts. Et avec combien de mâts déjà installés aujourd'hui dans le territoire du parc ?
Si vous permettez, l'exercice, on le réalise sur une partie du parc, qui est sur le territoire du SCOT. Donc c'est le territoire du parc, déduit des communautés de la commune aujourd'hui de Séverac et des communautés de communes de Campagnac et du secteur du Lévézou de Vezin. Donc on raisonne sur cette zone-là. Aujourd'hui, on en a 48 qui tournent. Et il y en a presque 80 qui ont fait l'objet d'une autorisation et qui n'a pas été annulée par un tribunal aujourd'hui.
D'accord. Donc en fait, en cumulant les deux, on arrive presque à l'objectif déjà.
Tout à fait.
Christian Font.
Dans le plan climat énergie territorial qui avait été voté à l'unanimité par le conseil syndical du parc, il était prévu 144 éoliennes. Donc nous situons toujours dans cette crête, si vous voulez, évaluative. Donc 144 pour tout le territoire du parc, 130 pour le territoire du SCOT, ça correspond à peu près à ce que nous prédisions à ce moment-là. Et nous sommes toujours sur le respect de nos engagements eu égard à tous les élus qui ont voté ce texte fondamental pour le parc.
Alors, est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots comment ça s'est passé pour arriver à ce résultat ? Parce que la question de l'éolien cristallise certaines oppositions sur le territoire, dans certaines communes, dans certaines communautés de communes, que ce soit ici à Saint-Affrique, que ce soit autour du plateau du Lévézou, voilà. Comment vous avez procédé ? Quelle a été votre démarche ?
Alors, il y a plusieurs...
Florent Tarris.
Si vous voulez, il y a eu plusieurs démarches. Parce que... je ne veux pas qu'on caricature, parce que ce sujet-là, si on accepte de faire une émission, etc., c'est parce qu'on veut décaricaturer les choses. Une fois de plus, ce n'est pas un matin, un président de parc, quel qu'il soit, ou un président délégué, ou un vice-président de la communauté qui s'est levé en disant « on va faire attendre d'éoliennes ». Ce n'est pas ça. Premièrement, 2200 gigawatts, on tombe à 1400. Ça, c'est un choix politique. Les élus auraient pu dire... Ben nous, on va faire zéro économie. Pourquoi pas ? Ça, y en a qui peuvent l'imaginer. Un autre choix a été de dire on fait l'équilibre énergétique. Les élus auraient pu dire on veut être exportateur d'énergie. C'est un modèle. Chavez a décidé à moins d'être exportateur d'énergie.
Ouais.
Il en a fait une démarche. Ça, c'est un choix politique. On fait ce choix. L'autonomie énergétique.
Ce qui veut quand même dire que même si on est autonome, l'électricité produite...
Il y en a qui part, il y en a qui rentre.
Qui rentre. Non, mais
on est d'accord.
Au global, on arrive à cet équilibre.
Si on se comparait à la France aujourd'hui a un déficit commercial de 60 milliards, dont 63 milliards de déficit énergétique. Si l'énergie elle était équilibrée au plan, on gagnerait 0,8 point de PIB sans rien faire.
Notamment avec le pétrole et le gaz. Ouais.
Quand on parle d'autonomie, on ne parle pas d'autarcie.
Richard Fiol.
Ouais. Donc, pour nous, à un moment donné, on en produira un peu trop et ça partira chez les voisins. À un moment donné, on n'en aura pas assez et les voisins nous l'enverront. C'est bien autonomie.
Oui, l'énergie ne se stocke pas.
Hein. Et ce n'est pas autarcie, on ne ferme pas les frontières.
Christian Font.
Pour que ce soit bien clair, on ne parle pas que d'électricité, on parle bien d'énergie. C'est-à-dire, il y a du fioul, il y a tout un tas d'énergie qui arrive sur notre territoire. Pour l'instant, nous ne produisons, nous, que de l'électricité, donc il faut bien exporter de l'électricité et importer et du fioul, le reste, évidemment. Et lorsque tout à l'heure, Florent Tarris a cité les chiffres, les fameux 2200 gigawatts, c'est équivalent électricité, transformé en électricité, c'est ça qui est important.
Pour corroborer les propos de Christian Font, presque 40 et quelques pourcents, 44% de tête de la consommation, c'est des transports. Donc ça, c'est plutôt des matières
donc on fait une équivalence.
Donc en fait. Ça, on sait qu'on aura, avec une densité de 19 habitants au kilomètre carré sur l'ensemble du territoire du SCOT, à partir du moment où on veut que tous les villages continuent à avoir des habitants, que toutes les zones aient des habitants, on sait que le transport sera, quoi qu'il arrive, nous générera du déficit énergétique. Donc il faut aller créer de l'excédent ailleurs, quoi.
Une autre vie s'invente ici.
L'équilibre énergétique en question.
Effectivement, ça ne s'est pas décidé à 4 dans un bureau, toc, 130 éoliennes. Comment vous avez procédé ? Il y a eu des réunions d'abord avec des élus, ensuite avec techniciens, ensuite des réunions publiques. Quelle était la démarche ?
Alors, il y a eu deux temps. Il y a eu le plan climat-énergie qui a eu lieu en 2009, qui a été le fruit de multiples réunions sur les années 2008 et 2009, notamment. Depuis le 2009, ce PCET, excusez-moi le barbarisme, a vécu parfois dans le conflit, parfois dans l'échange, enfin souvent dans l'échange. Et là, il y a l'étape du SCOT. Et l'étape du SCOT est revenue rebalayer les cartes, mais pas avec une remise en cause profonde. Puisque les élus ont dit, ce que l'on avait dit en 2009 comme objectif en 2030, c'est toujours notre objectif, l'équilibre énergétique.
Sur la question de l'éolien, du coup.
Alors, on veut l'équilibre énergétique, il nous faut 250 mégas, excusez-moi, installés sur le territoire autour de 130. Le problème qu'il y a, c'est que derrière cette politique, qui est une politique volontariste et souhaitée, il n'y a aucun outil de régulation. C'est-à-dire, si aucun opérateur éolien veut construire d'éoliennes, eh bien on n'aura jamais les 250 mégas. Si au contraire, des opérateurs voudraient en construire trois fois plus, eh bien on en aurait trois fois plus et on serait en déconnexion complète avec l'axe démocratique souhaité par les élus d'équilibre énergétique. Donc le pari du SCOT, qui est un document stratégique, politique, mais aussi et surtout juridique, a été de dire on intègre les objectifs du plan climat-énergie dans le schéma de cohérence territoriale. Donc il y aura une cartographie avec des zones à équiper en éoliennes, il y aura une puissance affichée d'objectifs, c'est les 250 mégas, et tout ça va être encadré pour atteindre l'objectif d'équilibre énergétique. C'est-à-dire qu'on va adapter l'autorisation d'occupation du territoire aux objectifs que c'est assigné.
On n'est plus du coup dans le schéma qui a eu lieu, je pense par exemple dans l'Hérault, dans le Tarn, où en gros chaque commune décidait, ou communauté de communes décidait, de l'implantation ou non d'éoliennes. Là, ça va être une volonté territoriale, alors, avec le parc, alors, du coup, comme régulateur.
Vous savez, je parle sous couvert des deux élus, mais j'ai souvent l'habitude de dire, mais le parc, on n'est rien en tant que parc. Le parc, c'est le territoire et les acteurs qui le font. Le président Fauconnier a écrit à toutes les communautés de communes et leur a dit, voilà, on a un défi, c'est les 250 mégas pour atteindre l'équilibre énergétique, c'est tous assignés. Aujourd'hui, comment ça se gère ? Ça se gère au coup par coup, en fonction des volontés d'investisseurs. J'ai tous les cas de figure, on pourrait y passer la nuit, là, parce que je vous explique les choses. Vous avez le maire qui n'en veut pas. Vous avez le maire d'à côté qui en veut, qui les met juste à sa frontière communale. Donc celui qui en veut pas, il a le sentiment de les avoir eus, mais de pas avoir les retombées fiscales, etc. Donc l'intérêt de réfléchir à l'échelle du SCOT, c'est qu'on réfléchit à l'échelle d'une unité environnementale et on réfléchit à l'échelle d'une unité de vie, puisque c'est un bassin d'emploi, lui, tout seul. Donc c'était de réfléchir à cette échelle-là pour implanter les éoliennes sur ce territoire en respectant les règles nationales et régionales, puisqu'il y a un schéma régional climat, air, énergie. Où on met les zones et comment on autorise les zones. Parce qu'il y a un volet que je pense évoqueront les élus, qui va au-delà de autoriser ou refuser les mâts, c'est comment on fait industriellement ces mâts, et notamment dans les montages financiers.
Drapeau de plage coloré, Mistral chasseur de nuages, laissons-les souffler dans le ciel bleuté de l'été. Laissons les brises caresser les mollets de coques, les jolies gambettes faire forger des filles ou des girouettes au perché. Laissons les courants d'air frais circuler. Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé s'évader. Toute l'énergie éoliennes. Que nos existences contiennent à s'envoler. Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé s'évader. Toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler.
Alors justement, c'est là où je voulais vous interroger, donc notamment vous, Richard Fiol. Donc vous êtes vice-président de la communauté de communes Larzac et Vallée, en charge de l'énergie. Je crois qu'on peut dire que vous êtes largement favorable à la transition énergétique et aussi aux questions de l'éolien. Comment ça s'est passé pour vous, concrètement, à la Comcom de Larzac et Vallée? Cette question, comment vous avez vécu ça?
Nous, on a répondu à l'appel à projet du ministère TEPCV. Et donc, on est reconnu aujourd'hui.
Territoire énergie positive.
Donc, on travaille avec le parc en symbiose. Le parc est plutôt sur tout le plan climat, etc., puisque nous, on est un petit territoire. Ensuite, on parle beaucoup d'éoliennes, mais il faut voir que nous, on travaille sur un mix énergétique. On a un peu d'hydraulique, on a de l'éolien bien sûr, on a tout ce qui est méthanisation et tout ce qui vient de la biomasse, et on a tout ce qui vient du soleil. Si demain les autres énergies produisent plus, on diminuera peut-être l'éolien. Hein. Voilà.
Oui, donc, c'est pas un alpha et oméga.
Je reviens en arrière, quand on a, les moines ont construit Nain, ils avaient l'énergie hydraulique, mais aussi sur le plateau des moulins à vent, parce que quand il n'y avait pas d'eau, en été, il y avait du vent. Voilà.
Mais alors, sur la question du vent qui nous intéresse aujourd'hui, ouais, hein, même si on sait qu'il y a d'autres choses, comment ça s'est passé?
On a une approche participative. C'est-à-dire que sur l'hydraulique, on a un projet participatif sur un petit moulin. Sur la méthanisation, c'est un projet participatif avec les paysans. Sur le photovoltaïque, sur les bâtiments, il y a aussi du participatif avec l'UMDER-Larzac. Et sur l'éolien, on avait un projet sur Cornus qui est du participatif aussi.
Ça veut dire quoi, voilà, participatif?
Mais participatif, ça veut dire que ce sont des projets qui sont portés par les citoyens et les habitants du territoire. Voilà.
Concrètement, c'est des habitants qui réclament ces projets et vous les appuyez.
Ce sont ces habitants qui le portent, ce sont les habitants qui le financent, et ce sont les habitants qui récupéreront les bienfaits de la production. Voilà.
Et ça a pu se faire pour l'éolien.
C'est sur l'éolien, si ce n'est que ce projet, aussi bien que l'industriel, est attaqué par des associations qui ne veulent pas d'éolien. Voilà. Et notre approche dans le SCOT, on en reparlera, c'est de forcer justement les industriels à accepter une grosse partie de participatif là-dedans pour que le territoire garde la maîtrise de son production.
Et je vous repose la question, comment on fait de la démocratie participative, ouais, alors qu'il y a une part de la population, qui n'est pas négligeable, qui s'y oppose, qui n'est pas forcément majoritaire, mais comment on intègre cette opposition?
Cette opposition, soit on arrive à leur montrer le bien fondé de notre démarche, soit c'est une minorité qui va bloquer. Moi, je prends le projet, par exemple, hydraulique sur un moulin qui est anecdotique au point de vue production, mais qui est intéressant pour ça. C'est que quand vous avez 150 participants sur une commune de 950 habitants, les opposants peuvent être que minoritaires. Et donc, se pose la question, est-ce que cette minorité que l'on reconnaît, qui a du bien fondé dans sa démarche, etc., peut bloquer une majorité? Ça, c'est...
Comment ça s'est passé pour vous au niveau de la communauté de communes des Sept Vallons, Christian Font?
Avant de dire comment ça s'est passé à la communauté des communes des Sept Vallons, je voudrais peut-être préciser quelques éléments sur cette problématique majorité-minorité. Au parc, il y a 97 maires qui sont représentés et 10 communautés de communes. Ça veut dire que les décisions qui sont prises lorsqu'elles sont prises à l'unanimité, c'est l'expression non seulement de 97 maires, mais de 97 conseils municipaux, de 10 conseils communautaires. Je parle en 2009, puisqu'entre-temps, le nombre de communes a un petit peu diminué. Donc, quelque part, lorsqu'il n'y a pas une voix discordante, lorsqu'il y a autant d'unanimité par rapport aux projets qui sont les nôtres, moi, je ne peux pas considérer qu'il y ait une minorité, une majorité. Il y a ce qu'on appelle un consensus sur la vision du territoire. Ça, c'est le premier élément.
Mais il peut y avoir une déconnexion entre les élus et les citoyens.
Le second, par rapport aux citoyens, moi, je respecte tout à fait les citoyens qui sont opposés à tel ou tel projet ou qui veulent les faire les évoluer. Souvent, d'ailleurs, c'est relativement bénéfique, puisque à la réflexion, après, les choses évoluent. On pourrait parler du plateau de Saint-Victor, on voit bien que quelque part, il y a eu des évolutions, et que quelque part, les opposants ne sont pas étrangers à ces évolutions, encore que peut-être qu'elles auraient eu lieu tout de même. C'est quand même une forte, forte majorité sur le territoire. Et donc moi, je conseillerais aux opposants de se présenter aux élections locales, le cas échéant de l'emporter, de faire évoluer les choses en fonction de leur objectif. Ceux qui votaient au parc, c'est voter à l'unanimité et qu'il y ait un consensus général. Mais je ne peux pas imaginer qu'il y ait une minorité, une majorité. Alors après, qu'il y ait des gens pour ou contre, ici ou là, oui, mais... je ne peux que le constater.
Oui, mais attendez, est-ce que c'était dans les programmes politiques que tel maire dans telle commune accepte l'implantation d'éoliennes ? Ce n'était pas forcément là. Donc non. Les élus qui ont été élus n'étaient pas forcément avec ce mandat-là. Sur quoi vous basez pour dire que... c'est majoritaire.
Non, mais si vous permettez, je trouve que la manière dont vous présentez les choses, c'est un peu spécieux. Si un maire, quel qu'il soit, le jour, dans ses promesses de campagne, quand je dis promesses, c'est un peu galvaudé, dans son programme de campagne, prévoyait tout ce qu'il fera pendant les 6 ans et ne puisse rien faire d'autre, je vous assure, pour travailler dans ce monde depuis des collectivités locales depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est un petit peu difficile. Ça, c'est un premier point, si on veut qu'il y ait tout dit, etc. Deuxièmement, il faut arrêter d'appréhender opposition. Est-ce qu'on doit être contre, pour, etc. Parce que nous, on a mené, dans le cadre du SCOT, on a mené un travail de concertation assez profond sur la notion des paysages, sur la notion de l'énergie, et on en arrive à des arbitrages ou des analyses qui ne sont pas aussi binaires que ça. Je vous prendrai un exemple. Je vous prendrai des exemples simples. Sur l'éolienne dans les paysages, quand on pose la question au groupe de travail, dans lequel des gens plutôt réfractaires à l'implantation d'éoliennes étaient présents, on leur présente une éolienne. Et on leur dit, qu'est-ce que vous en pensez dans ce paysage ? Qu'est-ce qu'ils répondent ? Il y en a qui disent, je ne veux pas d'éolienne dans le paysage. Ils ont le droit. Il y en a qui disent, ça me plaît. Et puis il y en a d'autres qui disent, ça dépend à qui elle appartient. C'est-à-dire, si c'est une éolienne qui appartient au village, elle ne me gêne pas. Si elle appartient à un industriel qui est coté en bourse, elle me gêne. Vous voyez ce que je veux dire ? Et derrière, le même objet et les mêmes remarques. Et nous, dans le cadre du SCOT, tout du moins, puisque je suis techniquement et professionnellement à la manœuvre dans cette action, on a tenu compte de toutes les remarques. Et tenir compte de toutes les remarques, ce n'est pas oui, non. C'est comment on fait. Alors, premièrement... Le schéma qu'a voulu le président Fauconnier de dire on encadre les éoliennes, c'est-à-dire on donne les zones autorisées ou pas, c'est pour donner un cadre. C'est-à-dire, c'est plus ou l'industriel ou le juge du tribunal qui décide où on les fait, c'est les politiques. Les politiques disent c'est dans ces zones qu'on va faire. Et quand ils prennent cette décision, comme c'est une décision juridique, elle est attaquable elle aussi devant les tribunaux, tant par les anti-éoliens que par les industriels, et donc du coup, il faut la charpenter. Donc on l'a charpenté sur une stratégie, c'est la stratégie que vous avez évoquée, on la charpente sur des analyses environnementales. Par exemple, on a fait ce qui n'avait jamais été fait, la cartographie des passages des vautours, où est-ce que les hauteurs de vol, etc., voir où ça peut aller, où ça peut se faire, etc. Les sources d'eau, la protection, puisque quand on fait des travaux, on peut attaquer les ressources en eau. On a appréhendé tout ça. Alors, vous savez, on n'est jamais dans un schéma parfait, idéal. On ne va pas vous dire qu'il est pas bien, notre schéma, parce qu'on est en train de le finir. Alors, ça serait un peu du masochisme. Donc, nous, on a travaillé sur ce schéma, où on encadre le nombre de mâts. Et le nombre de mâts, on ne le fixe pas en se levant le matin. On le fixe parce qu'on a un objectif sur le territoire d'énergie. Et
derrière, ça, vous l'avez bien expliqué.
Et on fait le zonage en intégrant les contraintes et on reste dans ce schéma-là. Et troisième élément, c'est un objectif, c'est l'objectif, je crois, 46 du PADD du SCOT, qui dit on imposera l'ouverture du capital de tous les projets éoliens au territoire à hauteur de 35% minimum. Ça, c'est pour permettre la réalisation. Le territoire s'implique dans le projet, c'est pas uniquement un opérateur qui va faire son projet. 35% c'est un plancher, c'est pas un plafond.
D'accord.
Et ce plancher, il a plusieurs vertus. Premièrement, il a été rendu possible par une loi qu'a fait voter Ségolène Royal sur la transition énergétique en juillet dernier, qui autorise aux collectivités à rentrer directement dans le capital de ces sociétés. Et les 35%, c'est la minorité de blocage. C'est-à-dire que la collectivité ou le territoire qui rentre dans ce capital, lui peut peser sur des décisions, le démantèlement, des choses comme ça, qui sont des décisions qui peuvent être essentielles pour le territoire. La revente à un fonds de pension, c'est contrôlé.
Et alors, est-ce que du coup, ça va permettre aussi d'éviter des choses ? Ça n'a pas eu lieu partout, de ne pas faire de généralité, mais il y a eu des cas, y compris en Aveyron, d'acceptation d'éoliennes pour des intérêts individuels. C'est-à-dire des élus qui acceptent de mettre des éoliennes sur la commune parce que ça se trouve parfois sur leur terrain. Ça s'est vu, c'est pas évidemment généralisé, heureusement, mais comment on peut éviter ces choses-là justement avec ce nouveau projet ?
Vous savez, moi, j'ai appris que le détail peut toujours vous sauter à la figure à tout moment parce que sur une politique, il y a toujours des... Chez les journalistes, il y a des gens plus ou moins honnêtes. Chez les politiques, il y a des gens plus ou moins honnêtes. On le sait, c'est partout pareil.
Quelle sera la règle ?
C'est ça que je veux demander. Nous, la règle, elle est simple.
On pourra toujours la contourner.
Mais... Donc, c'est ce que je tiens à dire. Si on était capable de ça, on ne serait pas là. Simplement, on a fait une cartographie qui s'appuie sur des projets qui ont été étudiés, qui ont été existants, qui respectent toutes les règles que je vous ai évoquées et dans lesquelles on veut rentrer au capital. L'intérêt de rentrer au capital, le dividende qui peut être dégagé grâce à cette entrée au capital, c'est entre 2,5 et 3,5 ce que ça rapporte en termes de fiscalité. Ça permet aussi de dire à des communes, tu n'as pas d'éolienne, tu n'auras pas d'éolienne, mais quelque part, par une redistribution, par cette entrée au capital qu'on partagerait à l'échelle du territoire, on te permettra d'avoir des bénéfices quand même comme si tu en avais. Parce que
on est plus sur le système, une commune voisine qui a une éolienne et l'autre qui n'en a pas.
Voilà.
C'est une sorte de péréquation territoire.
Parce qu'à des moments, le débat éolien, des fois, c'est pour certaines collectivités, elles le vivent comme une survie fiscale.
Bien sûr.
Et il faut l'entendre.
Christian Font.
Oui, ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est qu'on est passé d'un système où les éoliennes étaient implantées ici ou là de manière un peu anarchique par les communes, mais que désormais, ça va être régulé par les communautés de communes. Et donc du coup, il n'y a plus lieu pour telle ou telle commune limitrophe de se bagarrer pour avoir l'éolienne sur son territoire, puisque la fiscalité ira à la communauté de communes qui aura une opération redistributive sur le territoire.
D'accord.
Alors, vous me posiez la question tout à l'heure de la communauté des Sept-Vallons. Eh bien, c'est le raisonnement que nous avons tenu. Nous n'en voulions pas majoritairement. Nous savions aussi que, par ailleurs, nous irions nous associer à la communauté de communes de Sainte-Afrique, dans laquelle il y avait un projet que nous soutenions. Et donc, du coup, les retombées financières de ce projet iraient aussi, de fait, à l'ancienne communauté de communes de Sept-Vallons. J'ajoute que ce que Florent a indiqué sur les 35% à la participation au capital, c'est tout à fait fondamental. Parce que tout à l'heure, on a expliqué qu'il y avait une augmentation de production et des économies d'énergie. Mais ces économies d'énergie, il faudra les financer d'une certaine manière. Et donc, le plan qui est évoqué au niveau du parc, on tient le problème par les deux bouts d'une certaine manière. Le bout de la production, on produit, il y a de la fiscalité, il y a des retombées financières, et avec ces retombées-là, on met en place des politiques d'économie d'énergie pour la mobilité, l'isolation des bâtiments, je ne vais pas développer tout le programme.
C'est tout ce qu'on a évoqué, voilà. Justement,
et donc, on arrivera aux objectifs, que nous avons fixés. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre.
De retour sur le plateau de cette émission, l'équilibre énergétique en question avec le parc. Malheureusement, M. Florentaris a dû s'absenter pour la fin de cette émission, mais nous continuons avec Richard Fiol et Christian Font, deux membres du comité syndical du parc, à deux points de vue différents du territoire. Christian Font, donc, les sept vallons vont être intégrés probablement, même maintenant c'est sûr, à la communauté de communes du Saint-Africain en janvier prochain. Vous disiez, vous étiez contre l'éolien sur votre territoire.
Sur notre territoire. Puis il faut dire aussi que notre territoire était particulièrement mal placé par rapport à une implantation éventuelle, dans la mesure où à Montclar, il y avait un radar militaire qui faisait que c'était un petit peu compliqué, disons techniquement, d'en implanter. Enfin, le processus s'est passé de la manière suivante. Le président Fauconnier a envoyé un courrier à tous les présidents de communautés de communes pour leur demander quels étaient leurs projets. Il y a un certain nombre de communautés de communes qui nous ont dit « nous n'avons pas de projet ». Ça a été le cas de Sept-Vallons, c'était le cas de Belmont, ça a été aussi le cas de la communauté de communes de Millau. Et d'autres ont expliqué qu'ils avaient un certain nombre de projets. Lorsqu'on a additionné ces projets, on a arrivé à peu près à 250-260 mâts. Or, nous nous étions engagés à en avoir 140 sur le territoire oui. du parc et 130 sur le territoire du SCOT. Donc, on a fait cet arbitrage pour arriver à ces 130, sachant que les élus sont dans l'hypothèse d'accepter et ont accepté ce schéma parce que les 130 mâts que nous proposons avec une participation au capital à 35%, en réalité, les retombées financières seront beaucoup plus importantes qu'avec 300 ou 400 mâts pour lesquels nous retiendrons que la fiscalité liée à l'implantation sur le territoire. Alors que là, le fait de participer au capital, ça multiplie par 3, par 4 ou par 5 les retombées financières.
Concrètement, ça veut dire quoi qu'on participe au capital? Ça veut dire que chaque habitant sera amené à donner 100 € pour payer une éolienne? Comment ça va se passer?
Principalement la communauté de communes,
Richard Fiol,
dans les collectivités locales qui peuvent, avec la loi sur la transition énergétique, rentrer au capital des sociétés qui produisent de l'énergie. Donc ce sera principalement sur les budgets des communautés de communes que la participation se fera. Mais quand on parle d'éolien, on a fait la même démarche sur le photovoltaïque au sol. Comment on pouvait mettre le photovoltaïque au sol? Et nous, pour la communauté de communes, on a enlevé toutes les contraintes environnementales, aériennes, sur l'habitat, etc. On a vu que sur les implantations, aussi bien de l'éolien que du photovoltaïque, il vous reste peu de choses. Vous rajoutez les endroits où il y a du vent, parce que
c'est quand même la base.
Voilà, c'est la base. On en arrive à un potentiel d'installation qui est quand même relativement réduit.
C'est-à-dire combien, potentiellement?
Nous, on aurait pu en mettre une centaine, hein, mais vraiment, si on les tasse toutes sur une surface relativement faible, donc c'est inacceptable pour la population aussi.
Et alors qu'est-ce que du coup donc, du sera coup, acceptable?
Du coup, ce qui est acceptable, c'est à peu près la dizaine ou la douzaine d'éoliennes qui sont sur notre communauté de communes et où les permis sont déposés, ne sont pas attaqués, etc. Sur Cornu, sur la panouse de Sermon. Et sur Marnag et la Tour, il y a trois emplacements qui sont et qui pratiquement ne touchent pas le Larzac.
Vous arrivez avec ce projet d'équilibre concerté, mais tout autour, tout n'a pas été concerté par le passé. Comment ça va s'intégrer avec ce qui s'est passé sur le Lévezou, ce qui se passe sur les Monts de la Cône, ce qui s'est passé par ailleurs? Est-ce que ça, on va préserver le parc, mais il y aura des éoliennes juste aux bordures du parc?
Il y en a en bordure. Mais vous savez, bon, le problème des éoliennes, c'est que ça se voit de loin. Sur le photovoltaïque, vous avez aussi des opposants qui disent « c'est pas beau, c'est ceci, c'est cela ». Aujourd'hui, il y a des gens aussi qui vous disent « le paysage, c'est ça ». Ils ne veulent pas que le paysage bouge, ils ne veulent pas qu'on exploite les forêts, parce que c'est le paysage, ils ne veulent pas qu'on coupe un arbre, ils ne veulent pas que... La notion de paysage, c'est un peu difficile. Quand on leur dit, il y a 500 ou 600 ans, il y avait des moulins à vent, ils vous disent « les moulins à vent, c'était beau, c'est beau ». Mais avec notre perception actuelle, peut-être qu'à l'époque, il y avait des gens qui ne voulaient pas éolien, c'est vrai que sur un paysage, nous, ce qu'on ne voulait pas, c'est ce qui s'est un peu se passé sur le Lévezou, où ça s'est fait un peu dans l'anarchie. On essaye de l'encadrer, peut-être qu'on se leurre, on n'y arrivera pas, mais au moins c'est encadré. Alors que sinon, si on laisse faire, les industriels arrivent et ils vous en mettent 300. Hein. Quand on a parlé de la suppression du camp du Larzac, les industriels sont arrivés parce qu'ils se sont dit, ça y est, là-dessus, on y met 300 éoliennes. Hein. Ce que nous ne voulons pas, c'est pas acceptable. Je reviens juste sur la représentativité des élus. On n'est pas ni à Marseille ni à Paris. Hein. Les élus, tous les jours, ils sont au contact des gens. Hein. Et quand on parle de projet, on discute avec eux. Hein. On est dans une zone rurale où la démocratie participative, elle y est. Hein. Parce qu'ils savent où trouver le maire. Hein.
C'est pas idyllique non plus, on va dire. Il y a des communes où c'est... L'autocratie peut être tout aussi forte que dans certaines grandes villes, mais... Christian Font.
Alors, je veux bien entendre qu'ici ou là, il y a des pratiques autocratiques. Bon, ça, c'est sûr que...
Globalement, on est sur un petit territoire et on se connaît.
Les comportements individuels, on n'arrive pas à les maîtriser tous. En tout cas, pour beaucoup de maires, et en tout cas pour moi, je ne fonctionne pas avec une majorité ou une minorité. Lorsque je présente un projet au conseil municipal, s'il n'est pas accepté à l'unanimité, s'il y a une seule voix discordante, je considère que le projet est mal ficelé, qu'il faut rediscuter avec les élus et avec la population de manière à obtenir le consensus. Et ce que je fais moi, et un certain nombre d'autres élus le font aussi. Parce que lorsqu'il y a 250 ou 300 votants sur une commune, on ne peut pas se permettre d'avoir des oppositions fortes. Il faut se parler. Et nous nous parlons, disons, que je dirais quotidiennement d'une certaine manière.
Une autre vie s'invente ici.
L'équilibre énergétique en question.
Sur le fond de ce que est ce projet, la question d'utiliser les ressources renouvelables du territoire pour arriver à l'équilibre énergétique. Vous faites ce choix ici, dans l'Aveyron. Le problème, c'est qu'il y a une question nationale et qu'on parle de transition énergétique, mais qu'on a des échos ici de personnes qui disent « Très bien, mais transition énergétique, mais alors pourquoi ces énergies ne viennent pas se substituer aux autres, notamment le nucléaire ?» Et c'est souvent, on arrive souvent, quand on parle d'éolien, à la question du nucléaire avec une partie des opposants dans le coin, c'est-à-dire pourquoi pas l'éolien, mais si au moins ça venait réellement faire une transition.
Je vais faire une digression. Ce territoire a vécu une déprise démographique pendant plus d'un siècle dans l'indifférence la plus totale. Ça gênait personne. Je vous donne les chiffres. En 1886, nous avions 113 000 habitants sur le territoire du parc. 1999, le point le plus bas, nous arrivions à peine à 60 000 habitants. Il se trouve que depuis 1999, on connaît un regain démographique assez intéressant, puisqu'au moment où je vous parle, on doit avoir dépassé les 70 000 habitants. Donc entre les 65 000 de 1999 et au moment où je vous parle 2015-2016, on a gagné 5-6 000 habitants sur l'espace du territoire du parc. L'ami Richard Fiol le disait, c'est quelque chose d'évolutif. Les paysages d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'avant. Aujourd'hui, on peut constater des haies qui disparaissent, des champs, au lieu de faire un hectare ou deux, ils font 10 ou 15 hectares. Ça choque personne. Et pourtant, en termes de paysage, la transformation est beaucoup plus radicale par la disparition des haies et par l'agrandissement des champs, avec les moyens modernes, destruction massive qu'on a à notre disposition, que par quelques éoliennes, excusez le terme, qui sont disséminées ici ou là.
Ça n'empêche pas les personnes qui contestent les éoliennes aussi de dénoncer cette déprise démographique. Et foncière.
Ces paysages, ce sont les paysans qui arrivent d'une certaine manière à le pérenniser, à le conserver, à l'embellir, à le transformer, à le conserver. Et donc, une autre problématique du parc, c'est de conserver les exploitations agricoles de type familial en l'état. Nous avons 1607 exploitations agricoles sur le territoire du parc. Il y a à peu près un tiers d'entre elles pour lesquelles on ne connaît pas de repreneur au moment où je parle. Donc, ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'ils puissent rester. Et d'une certaine manière, travailler sur l'énergie, faire en sorte que nous soyons autonomes du pôle énergétique, que ce territoire, grâce à l'irrigation financière que va permettre ces éléments-là, construire justement de l'assainissement, construire des équipements sociaux, des écoles, grâce à ces financements, c'est aussi un moyen de garder notre population pérenne, de la faire augmenter et de faire que sur ce territoire, il fait bon vivre. Donc quelque part, moi je vais y insister, je m'insurge sur le fait qu'on se focalise toujours par le petit bout de la lorgnette. L'éolien, oui, très bien, mais il faut prendre le problème de manière globale. L'éolien n'est qu'un élément de la problématique générale du territoire. C'est pas que l'éolien, c'est l'énergie. ce sont les transports, c'est les services, ce sont les services à la personne, c'est notre attractivité, ce sont les paysages, c'est la gouvernance, c'est tout ça qui est en jeu.
Mais c'est justement le principe de ce schéma de cohérence territoriale, le SCOT. Oui. Mais après, quand vous parlez de problèmes globaux, justement, quand on rencontre les opposants du plateau de Saint-Victor au transformateur, qui contestent ce transformateur pour ses impacts locaux et sanitaires et environnementaux, mais aussi parce qu'il s'inscrit dans une problématique nationale, voire internationale, d'un schéma de production d'énergie où on ne substitue pas des énergies à d'autres, on vient en produire de nouvelles renouvelables. Et c'est ça qui est contesté quand même. Derrière la question de l'éolien et en plus en voyant des intérêts industriels derrière, il y a vraiment cette problématique qui apparaît dans un schéma que certains appelleraient aussi productiviste. Est-ce que ce schéma autour de l'éolien, puisqu'on est sur cette focale aujourd'hui, n'engendre pas de poursuivre cette logique-là ?
On peut répondre, mais aujourd'hui, là, vous parlez de politique générale mondiale qui est sur un
nationale européenne.
Non, oui, qui est sur un modèle productiviste, financiarisé, libre-échange complet, où les politiques n'ont même plus leur mot à dire. Maintenant, la transition énergétique, elle fait, le nucléaire, c'est dangereux, on le sait. Comment le remplacer ? On essaie d'appliquer à notre territoire ce que l'on aimerait qu'on applique au global. C'est comment fermer Fessenheim ? Ma question, pour fermer Fessenheim, combien de fenêtres il faut changer pour faire les économies correspondant à la production de Fessenheim ? Personne ne s'est posé la question. On dit, on veut participer à la fermeture d'une centrale, d'une tranche nucléaire, eh bien, peut-être qu'on produira un petit peu plus.
Oui, mais
on fera
que...
un peu plus de photovoltaïque, on fera un peu plus de deux ou trois mâts éoliens de plus, parce que notre territoire participera à ça.
Oui, mais sauf que pour l'instant, on produit seulement plus. Il n'y a pas la diminution en face.
Eh bien, parce que pour avoir la diminution en face, c'est ce que disait Christian tout à l'heure, il faut avoir des moyens pour isoler nos bâtiments, pour travailler sur l'éclairage, etc. Il nous faut, nous, les moyens. Mais nous, au niveau de notre territoire, un petit territoire, on essaie justement d'apporter notre pierre à cette transition, parce qu'on y croit. C'est sûr que...
C'est un pari.
On fait un pari vraiment sur ce fait-là.
D'accord.
Si aujourd'hui, tous les autres territoires, y compris des villes, avaient travaillé là-dessus, on arriverait peut-être à dire, chaque année, on ferme une tranche du nucléaire. C'est vraiment le scénario négawatt. Le scénario négawatt, c'est économie-production, diminuer la production, et il y a aussi un volet social. C'est l'action de tout le monde. Ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas que la production d'énergie. Il y a toute l'économie, travailler sur l'école, etc. Nous, quand on essaye de monter un projet d'autoconsommation sur une école, c'est aussi cette partie-là de dire, eh bien, vous voyez, aujourd'hui, on peut travailler sur l'autoconsommation. Il y a un impact sur les réseaux, aujourd'hui. Mmh. Ce qu'on dit, c'est qu'on a des réseaux centralisés autour de grosses productions. En France, la problématique, on a le syndrome Concorde. On traîne ça depuis Louis XIV avec Versailles. Quand on veut faire quelque chose, on fait le gros truc. Alors, on fait la plus grosse éolienne, la plus grosse machine, etc. Nous, dans notre territoire, on veut justement faire les choses à notre niveau. Voilà.
Y réagir peut-être ici.
Oui. Non seulement on a une vision planétaire d'une certaine manière avec les réductions des émissions de gaz à effet de serre et notre participation, mais on ne peut pas nous reprocher de prendre en compte tout ce qui se passe ailleurs. Nous, en tant qu'élus, on a en charge un territoire. Et donc moi, mon objectif, c'est que ce territoire, je le rende mieux équipé, plus performant, plus positif énergétiquement et plus agréable à vivre à mes enfants lorsque j'aurai fini mes mandats. C'est ça mon objectif. Alors après, qu'ailleurs, ils ne fassent pas aussi bien que nous, ou mieux, avec plus de difficultés, avec moins d'atouts, je l'entends. Mais comment peut-on faire ? Nous sommes, avec Richard Fiol et moi, que des maires de petites communes rurales, et donc qui géreront un territoire tel que vous le connaissez. Il y a 327 000 hectares sur ce territoire. Sans oublier que nous sommes évidemment dans des problématiques nationales, européennes, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a des objectifs à atteindre.
Et on rappelle donc que la communauté de communes Larzac et Vallée a été labellisée au niveau national, ouais, territoire et énergie positive pour la croissance verte, ouais, PEP-CV. Ouais. Tout comme le parc lui-même, ouais, je ne me trompe pas,
ouais,
a lui-même ce label. Je vous remercie. Je voulais quand même vous poser une dernière question, parce que vu qu'on parle d'un projet durable, on parle d'un projet à 2030, or, il s'avère que la durée de vie d'une éolienne, c'est autour de 20 ans. Est-ce que c'est réellement le bon choix d'aller sur de l'éolien quand on se projette à ces échelons-là ?
Écoutez, on est en train à l'heure actuelle d'imaginer que quelques éoliennes qui sont implantées sur le territoire vont être remplacées. Il se trouve que les éoliennes qui sortent sur le marché à l'heure actuelle sont beaucoup plus performantes et beaucoup plus puissantes et peuvent, avec la même hauteur de mât, produire davantage d'électricité. Donc moi, ce que j'imagine, c'est que justement, dans 20 ans, lorsqu'on remplacera les éoliennes, au lieu d'en avoir 130, est notre objectif, et peut-être qu'on n'en aura que 110, parce que la puissance et l'efficacité de ces éoliennes sera tellement accrue qu'on pourra réduire le nombre.
Encore,
donc moi, je suis plutôt optimiste et pas pessimiste.
Les panneaux photovoltaïques, on a annoncé 15, maintenant c'est plutôt 25, tout évolue. Par contre, une centrale nucléaire, c'est combien? On ne sait pas où elle en est, etc. Toute son attraction, elle est en fait pour un peu contre le lobbying nucléaire. Comment remplacer cette production qui risque de nous péter dans la... Parce que s'il y a un problème sur une centrale nucléaire, ça ne s'arrêtera pas à notre frontière.
Et surtout pas aux frontières du parc. Prochaines échéances, maintenant que le SCOT, donc on a eu des réunions publiques qui présentaient le PADD, plan d'aménagement pour le développement durable. La dernière réunion a eu lieu la semaine dernière à Saint-Rome de Tarbes. La question maintenant, c'est quoi le calendrier d'ici à 2030 avec ce projet politique qui doit maintenant encore être approuvé, si je ne me trompe pas.
Alors, ce projet politique, donc vous avez évoqué le PADD, nous en sommes maintenant à ce qu'on appelle le DOU, le D2O, document d'orientation et d'objectifs.
DOO,
qui fixe effectivement les règles précises. Et donc c'est dans ce D2O que nous allons mettre gravé dans le marbre ce que nous avons évoqué dans l'émission. Ensuite, il va y avoir une large consultation et en principe, le SCOT sera validé définitivement dans les premières semaines du mois de janvier pour application par la suite.
De quelle manière? Vote des conseils municipaux, des communautés de communes, référendum, comment vous allez faire?
Il n'y a pas de référendum pour un SCOT. Il y a d'abord le vote du conseil syndical du SCOT qui regroupe les communautés de communes représentées dans le parc. Et il y aura évidemment une large consultation auprès des communautés de communes.
Elles en donneront un avis, chaque communauté de communes?
Absolument. Un avis qui sera pris en compte, puisque j'imagine que ça ne sera pas un avis pour ou contre, comme on vous l'expliquait, mais ça sera un avis motivé avec des évolutions que nous prendrons en compte dans la mesure de nos capacités et dans la mesure des discussions qui auront lieu et des arbitrages qui seront effectués, évidemment.
Ouais. Dernier mot, peut-être, Richard Fiol?
La difficulté sera sur le transport. On va essayer d'acheter un véhicule électrique au moins pour voir comment on va faire. Et ensuite, sur la production, sur tous les piliers, aussi bien l'énergie bois que l'éolien, que l'hydraulique, que le photovoltaïque. Voilà.
Merci beaucoup Richard Fiol, Christian Font, donc membre du comité syndical du parc. Merci à Florent Taris qui a été avec nous une partie de l'émission, directeur général des services du parc. Retrouvez toutes les informations sur le site internet du parc, par-grand-cause.fr. A très bientôt sur les ondes de Radio Sainte-Afrique et Radio Larzac pour la suite de ce projet, peut-être l'an prochain. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi toute cette série d'émissions que vous pouvez retrouver en podcast sur les sites internet de Radio Larzac et Radio Sainte-Afrique. À très bientôt.
Une autre vie s'invente ici.
Une autre vie s'invente ici.
L'équilibre énergétique en question.
Énergie renouvelable,
bâtiment,
transport,
sobriété énergétique,
économie circulaire.
On en parle dans cette émission coproduite par Radio Larzac, Radio Sainte-Afrique et le Parc naturel régional des Grands Causses.